Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse, très heureuse de vous retrouver après quelques semaines de congés bien mérités. Voilà, c'est dit. Aujourd'hui, dans le JDA, nous lançons le débat sur le soixantenaire de l'indépendance au Gabon. Hier, dans son allocution, le président Ali Bongo a souligné le continuum qu'est l'histoire du Gabon. Il faut dire qu'en 2009, il a succédé à son père, Feu Omar Bongo, qui auparavant avait dirigé le pays pendant plus de 41 ans. Alors, quel bilan faites-vous de cette indépendance ? 60 ans plus tard, le Gabon a-t-il su s'émanciper de la tutelle française ? Pour en parler, nous serons en ligne avec l'activiste Marco Naesangi, coordonnateur notamment de l'initiative Tournons la page au Gabon. Pour participer, nous faire part de vos commentaires, posez vos questions à notre invité, composez dès maintenant le 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Édouard attend d'ores et déjà vos appels. Tout d'abord, sans plus tarder, nous ouvrons cette émission avec quelques-uns de vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour Stéphanie. Bonjour d'Africa Radio. Bonjour l'Afrique. Aujourd'hui, on compte 5 morts en Côte d'Ivoire et 100, je sais pas, 25 ou 26 blessés. Tout ça, c'est quoi? À cause de Hassan Ouattara. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, que quelqu'un dise que moi, la Côte d'Ivoire, c'est moi qui l'ai bâti ou que les Ivoiriens, même, il m'avait voté, il m'avait fait confiance parce que j'ai un bon système politique et voilà, qui leur sert tous. Bon, maintenant, vous dites que non, vous ne serez plus candidat et que vous allez transférer le pouvoir à la jeunesse et choisir quelqu'un. Vous avez choisi quelqu'un. Moi, je parle d'Hassan Ouattara qui a choisi de faire Amadou Koulibaly personne en mille fois de plus. Et il est incapable de trouver quelqu'un d'autre qui va remplacer Amadou Koulibaly. Pourquoi cette peur? Si vraiment qu'il savait qu'il devait, en fait, les Ivoiriens l'aimaient. Parce que si les Ivoiriens avaient voté pour son système politique qui est bien pour eux, donc il peut prendre un autre candidat dans son parti, quelqu'un d'autre dans son parti, qui va continuer avec son même système politique, ça veut dire que les mêmes Ivoiriens qui avaient voté vont encore voter ce dernier du RHDP.
Bonjour, cher animateur de la radio, Africa Radio. Et j'adresse ce message pour nos frères ivoiriens que nous aimons beaucoup. C'est tout simplement pour leur dire que, en suivant les événements qui se sont déroulés tout dernièrement pour protester contre la candidature du président Ouattara, moi je dirais tout simplement aux Ivoiriens d'être très très prudents. Et ne donnez pas l'occasion aux djihadistes qui sont aux aguets dans les parages, dans les périphériques de votre pays, qui cherchent un terrain de s'implanter, donc regardez ce qui se passe au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, partout. Ne laissez pas l'occasion aux djihadistes de rentrer dans votre pays. Et si vous voulez contester, contestez dans la discipline. Mais pourquoi chaque contestation des pauvres Gbagbos, ils cassent tout?
Bonjour, un auditeur de la radio africaine. Je suis Ivoirien vivant en France. Voilà, j'ai deux choses à préciser. Voilà, ce week-end, la diaspora ivoirienne est sortie massivement au niveau de la France. Et grand fut ma surprise en voyant un organe de presse ivoirien en ligne, dans ses écrits, disant que M. Addo, président de la République, a été glorifié, a été magnifié, a été ovationné ici à Paris. En prenant le slogan, les mots en cœur des opposants, ce journal en ligne s'est mis à mentir. Et ça, c'est pas bon, c'est pas normal. Dites ce qu'il y a. La deuxième préoccupation, c'est de parler aux médias européens, surtout français. La France est si proche d'Afrique et ces magazines d'information sont proches d'Afrique. Pourquoi ne pas dire vraiment ce qui se passe en Côte d'Ivoire?
Bonjour Radio Africa. J'appelle aujourd'hui pour condamner avec la dernière énergie l'attitude des journalistes français dans certaines chaînes internationales françaises. Ils veulent déstabiliser le Mali en tout moyen. Tout le monde sait qu'actuellement, au Mali, il y a une crise sociopolitique. Et en même temps, les journalistes occidentaux, surtout la France, ils veulent faire tout pour que Mali soit déstabilisé et davantage. En enquisant, sans aucune preuve, nos généraux et nos députés, dès qu'ils sont en collision avec les trafiquants de drogue, juste pour déstabiliser le Mali. Et je dis que les Maliens, la majorité des Maliens soutient total nos forces armées, surtout nos généraux que j'étais cité dans ces affaires. C'est faux et usage des faux. Donc nous, les Maliens, la majorité des Maliens défend coûte que coûte notre démocratie et notre constitution. Merci beaucoup.
Parce que c'est pas, je ne dirais pas 60 ans d'indépendance, 60 ans de dépendance et 60 ans d'échec. Où tous nos chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest francophone, même Afrique centrale francophone, tous échoués. Que des échecs. Aucun développement, aucune infrastructure routière, ni rien du tout, pas de nouvelles écoles, rien. Tout est délabré, partout en Afrique de l'Ouest francophone. Et en Afrique, on va dire en Afrique francophone, il n'y a aucun développement. Tous nos chefs d'État qui sont là, s'accroche au pouvoir. Pourquoi s'accrocher au pouvoir vu qu'on a échoué, vu qu'on a déjà amassé assez d'argent? Regardez M. Ouattara qui s'accroche au pouvoir, M. Bongo qui s'accroche au pouvoir, M. Biya qui s'accroche au pouvoir, M. Kondé qui s'accroche au pouvoir, Déby qui s'accroche au pouvoir, et tant d'autres. 60 ans d'échec.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui donc, dans le journal des auditeurs, nous lançons le débat sur le soixantenaire de l'indépendance du Gabon. Et pour en parler, nous recevons depuis Libreville Marcona Essangui. Marcona Essangui, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes coordonnateur, entre autres, de l'initiative Tournons la page au Gabon, qui milite justement pour l'alternance au sommet de l'État. Alors, comme le veut la tradition, le président gabonais Ali Bongo s'est exprimé hier lors d'une allocution télévisée. Tout d'abord, Marcona, qu'avez-vous pensé de son allocution ?
Je voudrais préciser que je suis le président international depuis janvier dernier, président international de Tournons la page.
Merci de la précision.
Pour l'allocution de M. Ali Bongo, je crois que j'ai tweeté avant son discours que nous allons encore assister à disons un monologue, c'est-à-dire à un discours où... Allô ?
Oui, on vous entend, Marc.
Et que nous allons encore assister à un discours d'autosatisfaction, alors que depuis 10 ans, M. Ali Bongo répète exactement la même chose, c'est-à-dire l'autosatisfaction sur l'emploi, l'autosatisfaction sur le système de santé, l'autosatisfaction sur les routes, etc. Mais quand vous êtes au Gabon et que vous cherchez à comprendre, à regarder exactement de très près la réalité de ce que dit Ali Bongo depuis 2009, vous avez l'impression que c'est un président qui s'adresse à une population, à des martiens, c'est-à-dire il ne parle pas du Gabon quand il prononce son allocution. Il ne parle pas du Gabon. Monsieur Ali Bongo a tenté d'évoquer les prouesses faites dans le secteur santé par rapport à la COVID-19. Je voudrais lui rappeler qu'à Libreville, rien qu'à Libreville, les patients qui souffraient d'autres pathologies en dehors de la COVID-19, se sont vus refusés parce que la COVID-19 avait carrément, avait tout simplement ravi la vedette à toutes les autres pathologies, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de structure. Et M. Ali Bongo a tenté de parler des routes. Je voudrais inviter tous ceux qui viennent au Gabon à faire le tour du Gabon pour constater effectivement que rouler au Gabon, c'est relève d'un mystère. Monsieur Ali Bongo à tenter de parler de l'emploi. Franchement, la création de 30 000 emplois en 2 ans, si en 10 ans, il n'a même pas pu créer 5 000 emplois, il n'a pas pu réaliser les 5 000 logements qu'il a promis, ce n'est pas 30 000 emplois qu'il peut créer en 2 ans. C'est juste, c'est du déjà entendu, c'est un discours qui sort de l'ordinaire,
si
de la réalité
vécue par les Gabonais. Si je comprends bien, Marcona, ce que vous dites, finalement, ce bilan établi est totalement déconnecté des réalités du Gabon. Je le disais en introduction, il a insisté sur le continuum qu'était l'histoire politique gabonaise en disant voilà, que l'histoire gabonaise n'était pas sécable, qu'elle ne se faisait pas par rupture. Est-ce que finalement il assume aussi l'héritage de son père?
Je retiens que depuis 60, le Gabon n'a connu que 2 chefs d'État, 2 présidents, en dehors de Mme Rogombe qui a assuré une sorte d'intérim après le décès d'Omar Bongo, intérim de trois mois. Le Gabon a connu 2 chefs d'État.
Vous ne comptez pas Léon Mba?
2 chefs d'État, c'est-à-dire Léon Mba et Bongo.
D'accord. Donc vous ne connaissez
pas Léon Mba et Bongo. Parce que la continuité dont parle Ali Bongo, c'est la continuité du désastre qui a commencé depuis 1967 à la prise du pouvoir de son père jusqu'à lui aujourd'hui. Quand on regarde un peu, j'aimerais donner quelques chiffres pour ceux qui ne connaissent pas le Gabon. Le Gabon, c'est un petit pays d'un peu plus d'un million d'habitants. Un peu plus d'un million d'habitants, ça veut dire que c'est un quartier d'Abidjan avec 267 000 km². Mais les ressources naturelles qui sont exploitées depuis plus de 70 ans sont tellement considérables qu'on se demande pourquoi le Gabonais peut vivre aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Je vous prends un exemple simple. L'eau. Nous sommes dans un pays équatorial. Il pleut au Gabon presque 12 mois sur 12. Je dis bien presque 12 mois sur 12. Mais vous allez à Libreville, vous avez les quartiers entiers qui sont dépourvus d'eau depuis 10 ans. Il y a eu un incendie du côté du stade Omnisport à Libreville, en plein centre Libreville, 3e arrondissement, l'arrondissement qui accueille le palais présidentiel. Les pompiers ont eu du mal à venir à bout de cet incendie, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ils étaient obligés d'aller se ravitailler à des kilomètres pour venir éteindre l'eau. C'est pour vous dire que si un système de plus de 50 ans n'est pas capable d'offrir de l'eau à ses concitoyens dans la capitale, imaginez le reste. J'ose même pas parler de l'éducation.
Restez donc, en ligne. Allez-y, pour conclure, on va écouter les auditeurs juste après.
Voilà, je disais tout simplement, Ali Bongo ne fait que continuer l'œuvre de destruction du Gabon que son père a commencé. Parce que rien n'explique que le Gabon soit dans cette situation aujourd'hui, quand on regarde un peu son potentiel au niveau du sous-sol.
Merci beaucoup Marcona, restez à l'écoute. On se dirige tiens justement du côté d'Abidjan, je crois, retrouver Youssef. Youssef, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour Radio Africa.
Bonjour, bonjour Youssef, la ligne n'est pas très bonne, mais je pense qu'on vous entend bien. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Quel regard portez-vous justement sur ce pays qui est le Gabon? Marcona rappelé, voilà, c'est pas péjoratif quand on le dit, mais c'est un petit pays, un peu plus d'un million d'habitants. Quel regard portez-vous sur le cheminement du Gabon depuis 60 ans?
Je pense que comme vous le dites, c'est bon anniversaire, une bonne fête d'indépendance. C'est vraiment un bon pays, et surtout moi, j'ai le peuple gabonais et surtout le président. Vous savez, Stéphanie, si on ne donne pas des points de position, on ne peut fédérer un peuple. Vous voyez, il faut de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités pour mettre fin à la corruption. C'est tout.
Mettre fin à la corruption.
Il faut de nouvelles personnes, il faut de nouvelles générations. Parce que nous parlons de mondialisation, de globalisation du village planétaire. C'est un petit pays et tout se passe entre eux. Et je pense qu'ils doivent quand même donner la main, disons, aux opposants et ensemble avoir de nouvelles personnalités à la tête du pays pour construire le pays. C'est très important.
Donner de la place à l'opposition et lutter davantage contre la corruption. On entend bien, mon cher Youssef. Je reviens vers vous, Marcona. L'ex-directeur de cabinet de la présidence, Brice Lacruche, Ali Anga, est incarcéré, je crois, depuis décembre dernier. Il est accusé de corruption. Est-ce que son arrestation marque un réel tournant dans la lutte contre la corruption, selon vous?
Je ne sais pas si l'arrestation et l'incarcération de Lacrouche Alianga participe de la lutte contre la corruption ou c'est tout simplement un règlement de compte au palais présidentiel. Il faut rappeler que depuis l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo en octobre 2018, nous avons créé un mouvement qui s'appelle Appel à agir pour nous interroger sur ceux qui sont censés diriger le Gabon aujourd'hui. La question qu'on se pose, qui dirige le Gabon? Je pense que la réponse à cette question est l'occasion et la conséquence de l'arrestation de M. Lacrouche Alianga. Parce qu'un directeur de cabinet qui s'est offert autant de largesses et qui a œuvré comme il a fait, au vu et au su de tout le monde, au vu et au su de toutes les institutions, ben, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un problème de gestion financière, ça il faut le dire, un problème de gestion, de partage de la manne financière engrangée au sommet de l'État, que nous avons assisté à toutes ces arrestations. Rien à voir avec la corruption, parce que si on doit lutter contre la corruption au Gabon, ben, il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par le commencement. Vous êtes au courant de l'affaire Ebien Malaki, qui devrait la chronique en France, et je pense que au centre de ce dossier de Ebien Malaki se trouve la famille Bongo. Ce sont des faits de corruption. Aujourd'hui, aucun Bongo n'a fait l'objet d'une arrestation au Gabon. Par contre, il y a des plaintes qui sont introduites en Occident, en France et bien d'autres pays, tout simplement parce qu'il y a des cas avérés de corruption. Mais au Gabon, aucun Bongo ne s'est inquiété du fait de corruption. Donc, si on doit lutter contre la corruption, il faut commencer par le commencement.
Vous évoquez...
Je considère que...
Allez-y.
Voilà, je considère tout simplement que toutes ces arrestations, bien sûr, il y a eu des malversations financières, mais est-ce que ces malversations financières ont été inconnues de la famille présidentielle ou de la famille dirigeante? Je ne pense pas.
Alors, Youssef a évoqué la place de l'opposition, et vous parliez tout à l'heure, Marcona, de ce système, Bongo, voilà, d'espèce de continuité depuis 50 ans. Est-ce que c'est à cause de ce système, de la mainmise de ce système, que l'opposition a un peu de place? Et est-ce que Jean Ping, candidat malheureux, qui se présente toujours comme le président élu en 2016 du Gabon, peut représenter une alternative à ce système?
Je voudrais tout simplement rappeler que depuis la conférence nationale, en 90, il y a eu des élections présidentielles en 1993 qui ont été rapportées par le père Paul Mbabesol. Mais le père Paul Mbabesol n'a jamais occupé le pouvoir présidentiel. En 2009, André Mbaubam a remporté les élections présidentielles, mais il n'a jamais occupé le fauteuil présidentiel. En 2016, Jean Ping a largement gagné ses élections. Vous savez ce qui s'est passé en 2016, jusqu'à massacrer les populations qui étaient amassées dans son QG. Il y a eu beaucoup de morts. Jean Ping n'a pas occupé le fauteuil présidentiel. Je pense que le véritable problème qui se pose au Gabon, ce n'est pas tant la qualité des hommes, c'est la gouvernance politique. C'est-à-dire ce sont les institutions qui ne jouent pas leur rôle. Parce qu'organiser une élection dans une république, parce que nous sommes dans une république, organiser une élection dans une république voudrait tout simplement dire qu'on appelle, on demande à la population, au peuple, de choisir son président. Mais une fois que le peuple a choisi son président, ce ne sont pas ces résultats qui sont pris en compte par la Cour constitutionnelle. Par la Cour constitutionnelle, parce que c'est cette Cour qui est dirigée par une dame depuis 1991, une dame, Madame Bouranzo, Madame Madeleine Bouranzo, qui a fait un enfant avec deux enfants avec Omar Bongo, et qui est de la famille, et qui devient aujourd'hui la gardienne du temple pour garder coûte que coûte le pouvoir familial au sommet de l'État.
si on entend bien, les
sélections ne peuvent pas.
Si on entend bien, finalement, hein, le président du Gabon n'est pas choisi à travers d'élections. On va revenir, si vous voulez bien, Marcona, sur le rôle de la France avec un auditeur, Marcus, qui nous attend au standard. Marcus, bonjour.
Oui, bonjour Madame Hassmann.
Bonjour Marcus.
Bonjour les auditeurs et bonjour l'invité.
Bienvenue dans le JDA. Marcus, éteignez votre radio si elle est allumée, mais sinon on vous écoute.
Oui, je me suis écarté de la radio.
Alors vous vous dites, il faut que les Gabonais arrivent à couper le lien avec la France.
Madame, très sincèrement, je pense qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas que les Gabonais, je pense que c'est l'Afrique francophone qui doit couper le cordon ombilical de Papa France. Je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, l'Afrique francophone se retrouve dans un système de sous-développement. À comparer à l'époque où la France était titulaire de ses États africains, la France a construit des infrastructures dans son intérêt. Et voir aujourd'hui le désastre après 60 ans d'indépendance, madame, il y a quelque chose à revoir. C'est-à-dire, il faudrait se dire, la France a donné l'indépendance aux États africains. Mais en donnant cette indépendance, la France a détruit ses infrastructures. C'est-à-dire une façon de dire, vous voulez l'indépendance, vous l'aurez, mais je vais vous appauvrir. Madame, il n'est pas possible qu'aujourd'hui, que des pays comme la Chine, comme l'Inde, 60 ans en arrière, étaient au même niveau que l'Afrique. Et que ce sont des pays, aujourd'hui, qui deviennent des puissances aussi bien dominantes que l'Afrique se divise et se maintient dans un système de pauvreté avec des dirigeants qui ne sont pas des compatriotes. Je pense que il faudrait que les Africains arrivent à se déterminer par eux-mêmes du choix de leur président et aussi remettre en question l'idée du panafricanisme. Qu'est-ce que c'est que le panafricanisme et qu'est-ce que le panafricanisme pourrait faire que le continent soit un continent rayonnant auquel toutes les matières premières sont puisées pour les pays.
On entend bien, d'ailleurs, si vous permettez, Marcus, hein, je vous renvoie concernant le panafricanisme à l'émission qui intervient chaque soir avec Nadir Djennad et l'historien Hamzat Boukhari Yabara autour de l'histoire du panafricanisme. Et on a bien compris votre propos, hein, Marcus. Hein, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Je reviens vers vous, Marcona, dans l'esprit de beaucoup de Gabonais. Difficile, hein, difficile d'avoir une alternance sans l'aide de la France. Qu'est-ce que vous en pensez? La France est-elle toujours cette figure tutélaire au Gabon?
Mais je pense que la France est complice de tout ce qui se passe, pas seulement au Gabon, mais en Afrique francophone. La France est complice. Encore que complicité ne veut pas dire responsabilité obligatoirement. Nos dirigeants ont la responsabilité de faire avancer nos pays. Nous avons suffisamment de ressources, même si ces ressources ne sont pas transformées en Afrique, mais je pense que les revenus issus de l'extraction de ces ressources peuvent valablement faire en sorte que les Africains ne soient pas obligés de s'expatrier pour chercher les cieux, pour aller vers les cieux plus cléments. Pourquoi je dis que la France est complice? Hier, la France a demandé, le président Macron a demandé aux dirigeants européens de manifester leur soutien au peuple biélorusse qui est en train de manifester. Macron a demandé la solidarité européenne de se mettre aux côtés des manifestants. À quel moment le même Macron a demandé aux dirigeants européens de le faire pour des peuples qui manifestent en Afrique? Pas plus tard qu'il y a quelques semaines au Mali, les Maliens se sont levés. On a attendu la voix de la France. La France est restée aphone. Macron est resté aphone. Les Nigériens. Aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens qui sont en train de se soulever pour refuser le troisième mandat. Nous avons des collègues de Tournons la Page qui sont incarcérés au Niger et en Guinée, du fait tout simplement d'avoir manifesté. Au contraire, les diplomates français dans ces pays n'arrive même pas à mettre la pression sur les autorités qui gardent de manière arbitraire les activistes qui ne souhaitent, qui ne veulent que la bonne gouvernance. Alors, le fait, un, de fermer les yeux et de continuer à soutenir ces dictateurs africains participe de la situation que nous sommes en train de vivre dans nos différents pays africains, c'est-à-dire la paupérisation du peuple africain à tous les niveaux. Donc, la France a son rôle à jouer et ce rôle est très négativement perçu par les populations africaines.
J'allais vous demander, Marc Connard, vous êtes toujours là ?
Oui, je suis là.
Oui, voilà. Oui, juste, alors, en 1960, si on se souvient bien, un peu avant l'indépendance, le Premier ministre donc, était Léon Mba, il deviendra ensuite le premier président du Gabon. Léon Mba, lui, souhaitait la départementalisation du Gabon, c'est-à-dire faire du Gabon un département français. On dit même que la France l'a presque obligé à être indépendant. Est-ce que c'est cette position des élites gabonaises de l'époque et d'autres, on peut le voir aussi en Côte d'Ivoire, a fortement justement marqué cette relation entre le Gabon et l'ancienne puissance coloniale ?
Ben, la France n'est pas la seule puissance colonisatrice en Afrique. Vous avez les Anglais qui ont aussi colonisé les Espagnols, les Portugais. Alors, quand on essaie de faire le tour de toutes ces colonies, pourquoi ce sont les colonies françaises qui se retrouvent dans la situation qu'on est en train de décrire, la paupérisation extrême ? Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que la France voudrait continuer à placer à la tête de nos différents États des hommes de paille, facilement malléables, corrompus, et qui sont corrompus par qui ? Qui sont corrompus par des multinationales françaises, et tout simplement pour que ces personnes se maintiennent au pouvoir. Je prends le cas du Gabon. Omar Bongo a régné pendant 42 ans. Omar Bongo finançait même les partis politiques et les hommes politiques en France. Mais pourquoi accepter qu'une petite colonie des millions d'habitants puissent avoir une emprise sur la politique de la puissance colonisatrice.
Finalement, c'est la France qui a du mal à s'émanciper du Gabon, presque. En tout cas, l'économie française.
C'est vice-versa. C'est vice-versa. C'est-à-dire, on se pose la question, est-ce que si la France lâche les colonies africaines, est-ce que cette même France sera la cinquième puissance mondiale aujourd'hui ?
C'est très clair. Restez à l'écoute.
C'est la question qu'on se pose.
C'est très clair. Restez à l'écoute, Marc Connard. On va écouter un dernier auditeur. Est-ce qu'il est là ? Thierno, bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, Thierno.
Bon retour.
Merci.
Bon retour.
Merci beaucoup, Thierno. On vous écoute, Thierno, sur le cas du Gabon.
J'ai juste posé une question de Gabon, comme la Guinée. J'ai juste posé, est-ce qu'on peut faire des pétitions pour qu'on retourne en arrière aux régions à colonisation ? Parce que comme nos gouvernants, ils sont pour eux seulement. Parce que quand les Français étaient là-bas, on avait de l'électricité, on avait des hôpitaux qui fonctionnaient, des routes qui fonctionnaient. Aujourd'hui, on n'a pas tout ça. Pourquoi on ne peut pas faire des pétitions pour retourner à stack zéro ?
Je vais demander à Marc Connard ce qu'il en pense. Marc Connard, les nostalgiques de la colonisation, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne suis pas nostalgique de la colonisation, au contraire. Nous sommes au 21e siècle. Et c'est le siècle du développement, c'est le siècle du numérique. Mais retourner disons à la colonisation, c'est méconnaître aux Africains la possibilité non seulement de réfléchir, mais aussi de pouvoir développer leur continent. Combien d'Africains, je dis bien combien d'Africains ont été formés dans les mêmes universités que ceux qui dirigent en Occident aujourd'hui ? Combien d'Africains sont retournés en Afrique et qui ont un potentiel énorme et qui n'arrivent même pas à s'insérer dans la société pour pouvoir exercer ce qu'ils ont sur son téléphone. Nous avons les mêmes formations et nous avons été formés dans les grandes universités, dans les mêmes universités en Occident. Il est tout à fait, je dirais, inacceptable qu'on puisse penser que la colonisation était meilleure que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce qu'il faut aujourd'hui.
Oui, allez-y.
Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une révolution démocratique et sociale en Afrique. Les citoyens aujourd'hui d'Afrique sont en train de se réveiller pour dire stop, on n'a plus besoin d'avoir à la tête de nos États des dirigeants qui ne pensent qu'à eux, qui pensent tout simplement à appauvrir les populations. Parce qu'on leur a tout simplement dit, un peuple pauvre, c'est un peuple qui n'arrive pas à revendiquer. qui ne se soulèvent pas. Je crois qu'ils se trompent. Ils se trompent parce que toutes les révolutions qui vont se faire, qui sont en train de se faire en Afrique aujourd'hui, ce sont les révolutions d'une nouvelle génération qui pensent que trop, c'est trop.
Et justement, j'allais dire, on peut citer hein, Thomas Sankara hein, qui disait « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage ». Merci beaucoup, Marc Onin, d'avoir été notre invité. Je rappelle hein, que vous êtes président international de Tournons la page. Merci encore et je vous souhaite une excellente journée à Libreville. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à hein, continuer le débat sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter. On va essayer de le réactiver un petit peu. Demain, nous parlerons de la situation hein, politique en Côte d'Ivoire et notamment hein, de l'opposition hein, à une troisième candidature d'Alassane Ouattara. Si vous souhaitez participer, laissez votre coordonnée, vos coordonnées, votre message sur le répondeur d'Africa Radio au 33 1 55 07 58 05. À très bientôt sur Africa Radio.